14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Une affaire qui bouscule le monde politique. Le député flamand Christian Van Ecken a été placé sous mandat d'arrêt pour assassinat. Le parlementaire nie toute implication dans les faits qui lui sont reprochés. Pourtant, les caméras de surveillance l'ont filmé avec sa maîtresse.
Bonjour. Le mari, la femme et le député. C'est sur ce trio criminel que s'est penché pendant plus de 7 ans la justice belge. Un crime commis à huis clos, perpétré dans un appartement dans une commune limitrophe de Bruxelles. La victime, un homme tranquille, s'appelait Marc Deléa. Un crime inexplicable s'il n'avait pas fait apparaître dans son sillage une sombre intrigue amoureuse, des rapports chargés de haine, jusqu'à déclencher l'exécution du malheureux. C'est ce scénario qu'ont retenu les enquêteurs, scénario qui va alors impliquer un parlementaire en vue, le député du Parlement flamand Christian Van Ecken et sa maîtresse Sylvia Boisgelot. Un pacte diabolique aurait uni les amants pour abréger la vie d'un homme devenu gênant. Sauf que cette explication ne va cesser de se heurter à des incohérences, des contradictions et à l'absence de preuves formelles et d'aveux. Le député et la femme de sa vie sont-ils de cyniques meurtriers ? Où ont-ils été pris dans un impitoyable engrenage? Nos invités et acteurs de cette affaire vont nous éclairer.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Christian Van Ecken, du nom de ce député belge qui va se retrouver mêlé à un meurtre des plus discrets, commis à l'été 2014 dans une commune paisible de la métropole de Bruxelles. Ce lundi 7 juillet 2014 au matin, Giorgio Pontello essaie en vain de joindre son ami Marc Deléa, un négociant en café qu'il doit rencontrer dans la journée. Son téléphone ne répond pas. Les appels sont curieusement aiguillés vers un répondeur en anglais, comme si l'appareil avait été volé. J'ai trouvé ça bizarre, je me suis rapidement inquiété car Marc est quelqu'un de très ponctuel. C'était tout à fait anormal car son GSM était allumé 24 heures sur 24, on pouvait le contacter à n'importe quelle heure, expliquera Giorgio Pontello aux enquêteurs. Ce dernier prévient la sœur de Marc Deléa qui, elle aussi, commence à se poser des questions. Mais après tout, il est possible que l'intéressé ait perdu son portable et soit en déplacement pour son travail. Mardi 8 juillet, en fin d'après-midi, Sylvia Boisgelot pousse la porte de l'appartement de Marc Deléa, avenue du Mutsard, dans le quartier résidentiel de Lecken. Le couple a longtemps vécu ensemble, ils sont parents d'une petite fille. Sylvia continue de séjourner fréquemment au domicile pour éviter à l'enfant, dit-elle, le choc de la séparation. Elle trouve Marc Deléa, 45 ans, dans son lit. Il ne respire plus, elle appelle les secours, évoque d'emblée une mort naturelle, peut-être une fatale apnée du sommeil. Le médecin de famille constate le décès qui pourrait remonter à 48 heures, à la nuit donc de samedi à dimanche. Il s'agit selon lui d'une mort naturelle. Marc Deléa ne présente aucun signe suspect. Le désordre qui règne dans l'appartement, comme s'il avait été fouillé, le fait que le portable du défunt reste introuvable, tout cela incite le parquet de Bruxelles à demander une autopsie en bonne et due forme. Lors de l'examen, le légiste remarque une infime plaie au niveau du lobe d'une oreille que son collègue n'avait pas détectée. Il y a là un orifice minuscule, difficile à voir au premier regard. Un projectile a touché le cerveau, une balle de très petit calibre, 6,35 mm, tirée par un Beretta 950, un pistolet de défense qui tient aisément dans une poche ou une sacoche. L'affaire du mort de l'avenue du Mutsard change alors du tout au tout. C'est un crime. La police de Bruxelles constate aucune effraction, si ce n'est une moustiquaire endommagée, malgré la disparition du téléphone portable qui a cessé d'émettre le lundi 7 juillet à 2h17 du matin. Rien ne semble avoir été volé. 13 000 euros ont été retrouvés dans l'appartement. Les enquêteurs pensent d'emblée à une grossière mise en scène destinée à brouiller les pistes. La police soupçonne que le meurtrier est forcément un proche de la victime, quelqu'un qui connaissait ses habitudes. Le crime a été commis alors que Marc Deléa était endormi et était tout seul à son domicile. Sa fille de 7 ans n'était pas à la maison ce jour-là, sa mère en ayant la garde. Qui plus est, le meurtre s'est déroulé durant l'unique semaine de vacances annuelles du concierge, Monsieur Volkart, qui loge juste en face de la victime. Personne n'a rien vu, rien entendu dans cet immeuble qui compte au total 19 appartements. Octobre 2015, après un peu plus d'un an et demi d'enquête, Sylvia Boisgelot, l'ex-épouse, est interpellée, inculpée d'assassinat et écrouée. Trois mois plus tard, 26 janvier 2016, le député flamand Christian Van Ecken est à son tour inculpé et écroué. Le couple entretenait depuis longtemps une liaison connue de tous. Ils seraient les derniers à avoir vu vivante la victime. La vidéosurveillance montre qu'ils étaient chez elle la nuit où elle est morte. On les voit quitter l'appartement le 7 juillet 2014 à 1h20 précise du matin. Des images qui envoient donc Sylvia Boisgelot et le Christian Van Ecken en détention provisoire. L'affaire n'en est toutefois qu'à son début. Et on va voir que malgré les apparences, rien n'est si simple. On va rester pour l'instant sur cette scène de crime avec notre premier invité, Dominique Demoulin. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en ligne dans l'heure du crime. Vous êtes journaliste à RTL TVI, spécialiste des questions judiciaires et peut-être sans doute la meilleure chroniqueuse judiciaire du Royaume de Belgique et même au-delà.
Merci.
Dominique, vous connaissez parfaitement cette affaire. J'ai envie de vous demander, qui pouvait donc en vouloir à ce tranquille négociant en café, Marc Deléa ?
Ben, finalement, on ne trouvera personne qui pouvait en vouloir à Marc Deléa. Il y aura des pistes d'enquête qui seront lancées de divers côtés. Alors, du côté de ses affaires, qui sont un peu compliquées, qui ne sont pas vraiment florissantes. On constatera aussi que Marc Deléa avait dans son garage des vieilles voitures qu'il retapait. Il y en avait une, notamment, dont le numéro de châssis avait été effacé. Donc, là aussi, on s'est dit, bon, ben, il a sans doute des relations un peu suspectes dans ce milieu des voitures. Peut-être volée. Donc les enquêteurs ont cherché de ce côté-là et finalement, force est de constater qu'ils n'ont pas vraiment trouvé d'ennemis à Marc Deléa, même si lors du procès, la défense estimera que c'était un homme, Marc Deléa, qui était un peu aux abois au moment de sa mort.
D'accord, et ça on le verra, évidemment il y a des questions financières qui vont jouer dans cette affaire, mais on va le voir un peu plus tard. Encore une question, Dominique Demoulin. Il a été tué, Deléa, avec un pistolet de poche, j'ai envie de dire, un pistolet de défense, c'est pas une arme très professionnelle, ça, parce que d'abord, il faut tirer de très près, je crois, et puis, c'est pas un calibre, comme on dit, qui est très répandu chez les malfrats.
Je crois que c'est ce qu'on appelait une arme de femme, autrefois.
Qu'on glisse dans le sac à main, c'est ça
une arme... Voilà, qu'on peut glisser effectivement dans un sac à main, qui est donc extrêmement discrète, qui peut être létale, bien entendu, mais qui n'est pas spectaculaire. Ça fait un petit trou là sur la tempe. C'est une arme qui n'est pas très bruyante non plus. Les experts diront que ça fait le bruit d'un pétard, tout au plus. Et puis la question se posera ici, est-ce qu'on a utilisé ou non un silencieux ? On n'en sait rien. L'enquête ne permettra pas de répondre à cette question. Mais une arme discrète, ça a pas mal d'avantages.
Évidemment, et ça fait pas de bruit en l'occurrence. Et puis, c'est un meurtre, il faut le dire, qui est sans témoin et sans preuve et sans aveu. Mais ça, on va y venir. Bonjour, maître Georges Nicolis.
Bonjour.
Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes avocat au barreau de Paris et de Bruxelles, avocat de la partie civile, je le précise. Vous êtes donc l'avocat de la famille de Marc Deléa et vous êtes en direct de chez nos amis de Bell RTL, qu'on salue évidemment, et qui assure cette liaison téléphonique. Un mot très simple, maître Nicolis, qui est Marc Deléa ? J'ai dit, c'est un homme tranquille, on peut le décrire comme ça ?
Oui, je crois que c'est une bonne définition. C'est quelqu'un qui n'avait pas spécialement d'ennuis dans sa vie, au quotidien. Quelqu'un, effectivement, de tranquille.
Et il fait des affaires, il est négociant en café, c'est ça ?
Oui, il est fournisseur donc en café et il alimente tous les petits commerces dans l'Horeca.
Est-ce qu'on lui connaît ? Est-ce qu'il a eu des menaces de Léa ? Est-ce qu'il a une vie où il rencontre des gens bizarres ?
Non, c'est quelqu'un qui, encore une fois, a une vie tout à fait tranquille. Évidemment, il fréquente les cafés puisqu'il est fournisseur, mais l'enquête n'a jamais pu révéler quoi que ce soit au niveau menace dans le cadre de sa vie professionnelle.
C'est son couple qui va mal, maître Nicolis ?
C'est un couple, on peut le dire, qui bat de l'aile depuis plusieurs années, mais on a évidemment un sujet de discorde qui est l'enfant commun, la petite Lola.
Mais il y a une espèce de modus vivendi, j'ai envie de dire, au sein de ce couple, c'est-à-dire que il y a un pacte de non-agression. C'est un couple qui se délite, mais ça a l'air de se passer de manière assez tranquille.
Alors effectivement, de manière, j'ai envie de dire, interne entre Marc Deléa et Madame Boisgelot, il y a une espèce de consensus, en tout cas qui va durer un certain temps à propos de Lola, mais les choses vont changer au fil du temps.
Vont changer au fil du temps, et effectivement on va le voir que c'est peut-être pas si simple cette situation conjugale. Bonjour Maître Laurent Kenness.
Bonjour.
Merci vous aussi d'être aujourd'hui dans l'heure du crime et également en direct de chez nos amis des studios de Bell RTL. Vous êtes l'avocat, vous, de Christian Van Ecken. Christian Van Ecken, on le voit apparaître donc dans cette affaire. Il connaît bien le couple de Léa puisqu'il est le parrain de leur petite fille. Et ainsi, il est devenu au fil du temps l'amant de Sylvia, c'est bien ça?
C'est bien exact. Donc Christian Van Ecken était à l'époque en couple, et les deux couples sont devenus des couples d'amis, ils se sont fréquentés très régulièrement, et Christian Van Ecken est devenu le parrain de la fille du couple de Léa Boisgelot. Et puis par la suite, les deux couples se sont séparés totalement en ce qui concerne mon client et en ce qui concerne Madame Boisgelot. Ils vivaient encore ensemble, mais ce n'était plus qu'un couple de façade. Et la relation a continué à être... est devenue différente et ils ont eu une relation amoureuse. Et assez rapidement, ils s'en sont ouverts à Marc Deléa.
Les deux inculpés nient farouchement les faits qui leur sont reprochés. Ils affirment qu'ils n'avaient aucune raison d'en vouloir à Marc Deléa, avec qui ils entretenaient des rapports tout à fait cordiaux. La police de Bruxelles est convaincue que Christian Van Ecken et Sylvia Boisgelot étaient dans l'appartement quand le malheureux Marc Deléa a rendu son dernier souffle. Sylvia nie cette affirmation, elle n'avait aucune raison d'en vouloir à son ex-mari avec qui, affirme-t-elle, elle n'avait plus aucune relation sentimentale. Le couple faisait sa vie chacun de son côté tout en continuant à se voir. Sylvia Boisgelot aiguille les enquêteurs sur une piste de magouille financière ainsi qu'une lourde dette à hauteur de 100 000 euros qu'aurait contracté la victime. Marc aurait peut-être rencontré des personnes peu fréquentables qui auraient décidé d'en finir avec lui. Les vérifications opérées par les enquêteurs ne permettent pas d'étayer cette thèse. Personne dans l'entourage de Marc Deléa n'était au courant de quelconque démêlé financier. De son côté, Christian Van Ecken va préciser qu'il n'existait aucune animosité entre lui et Deléa. Il explique que ce dernier avait parfaitement accepté le fait que Sylvia choisisse de vivre avec lui malgré leur différence d'âge, presque 30 ans. Le parlementaire ajoute qu'il arrivait fréquemment que tous les trois dînent ensemble. Il avait même aidé Deléa lors de travaux dans sa maison de campagne de Tubize, au sud de Bruxelles. Les enquêteurs dressent un tableau sombre des protagonistes. Ils s'appuient sur le témoignage de Véronique, une pédicure qui soigne Sylvia Boisgelot. Celle-ci lui aurait un jour demandé si elle ne connaissait pas quelqu'un pour abattre Marc. La pédicure aurait été tellement troublée par ses propos qu'elle en aurait parlé à Christian Van Ecken. Ce dernier aurait admis que Sylvia était sans doute à bout quand elle aurait prononcé ces paroles. Sylvia Boisgelot, confrontée à la témoin, ne se souviendra pas d'avoir confié ce genre de choses. La police pense que des questions financières, notamment au sujet de la propriété de la maison de Tubize et de la garde de leur fille, ont envenimé les rapports du couple. Pour couronner le tout, il y a encore ces SMS échangés entre le député et la femme qu'il souhaite épouser. Dans ces messages, Marc Deléa y est traité de porc ou encore de monstre. De toute évidence, les amants lui vouaient une évidente détestation. Les conclusions des experts psychiatres noircissent encore l'image des inculpés. Sylvia Boisgelot est ainsi décrite comme une personnalité de type psychopathique, mythomane et très manipulatrice. Christian Van Ecken est lui décrit comme un grand calculateur et un grand manœuvrier, peu intéressé par la question de la vérité, peu empathique à l'égard des autres et très narcissique. Techniquement cependant, les preuves paraissent absentes. Une trace de pas dans l'appartement reste non identifiée, même s'il pourrait s'agir d'une chaussure en plastique portée par Sylvia Boisgelot. L'arme du crime n'a pas été retrouvée et l'heure demeure fluctuante. Pas de preuves matérielles flagrantes donc, mais un faisceau de présomptions suffisent, estime le juge, pour renvoyer les deux intéressés devant un tribunal. Et on va voir dans le chapitre suivant ce que va dire le tribunal. Pour l'instant, on en reste à ce début d'enquête avec ces deux personnes qui vont être renvoyées. Dominique Demoulin, journaliste à RTL TVI en direct depuis la Belgique dans l'heure du crime. Je suppose qu'en Belgique, c'est un choc. Un député réputé qui se retrouve face à la justice inculpé d'un assassinat, c'est pas banal.
Pas le premier, hein, cela dit.
C'est vrai.
Vous avez déjà traité aussi de l'affaire de Bernard Westphal, qui est cet autre député belge qui lui avait été accusé du meurtre de sa compagne avant d'être acquitté. Christian Van Eken, c'est le second. Alors c'est un député qui n'est pas très très connu quand même en Belgique. Hein. Mmh. Il représentait les francophones de la région bruxelloise au Parlement flamand. Je ne veux pas vous expliquer l'histoire de la Belgique, enfin, le contexte politique,
on
c'est
va
un
pas,
peu compliqué.
On va pas rentrer là-dedans.
Voilà. Non, je préfère pas. Il est plus connu finalement comme bourgmestre de Linkebeek. Linkebeek, c'est une commune du sud de Bruxelles, une commune dite à facilité, donc qui est en région flamande, mais où il y a beaucoup de francophones. Et Christian Van Eken, il va rester pendant 13 ans maire de cette commune de Linkebeek. Un maire qui ne fait pas beaucoup parler de lui, si ce n'est que sa commune a une situation un petit peu particulière dans la géographie politique belge.
Maître Georges Nicolis, vous êtes vous l'avocat de la famille de Léa. Il y aurait des questions financières qui agiteraient ce couple. C'est ce que croient les enquêteurs à ce moment-là. Ils se disent, il y a la garde de l'enfant, il y a cette fameuse maison de Tubize. C'est vrai ou c'est faux?
Alors, comme vous le dites, il y a bien entendu le problème concernant la fille du couple, la petite Lola, mais les enquêteurs vont également se pencher sur la question du financement de la maison de Tubize, qui en fait avait été mis à charge de Marc Deléa dans cette affaire, et qui surtout... ce fameux Marc Deléa qui a lui souscrit une assurance vie au profit de son épouse en cas de décès. Donc il y a effectivement dans cette affaire une question financière qui n'est pas négligeable, puisqu'on parle d'une assurance vie de l'ordre de près de 400 ou 500 000 euros, et qu'il est parfaitement comme ça a été le cas d'ailleurs, parfaitement admissible que Madame Boisgelot ait pu bénéficier de ce montant.
Donc ça pourrait être, j'ai envie de dire, une amorce de mobile.
Tout à fait, hein, c'est un deuxième mobile. C'est un deuxième mobile dans l'affaire.
Alors je suppose que Maître Laurent Kenness, il n'est pas d'accord avec évidemment cette version des choses. Vous êtes l'avocat de Christian Van Eken. Une question, Maître Kenness, il y va pas avec le dos de la cuillère, votre client, quand il parle de Marc Deléa, cocu, porc, monstre, ça fait beaucoup dans ses SMS.
Alors, première chose, ce sont des termes qui ont été utilisés par Sylvia Boisgelot, de même que Marc Deléa, lorsqu'il a à plusieurs reprises parlé de Sylvia Boisgelot, et d'ailleurs Sylvia Boisgelot s'en plaindra dans le cas des SMS qu'elle envoie également à mon client. On sent que dans le quotidien, il ne supporte plus. D'ailleurs, elle sera aussi traitée de tous les noms par Marc Deléa, parce qu'ils ne peuvent plus vivre ensemble. Et c'est la raison pour laquelle ils ont décidé tous les deux de se séparer,
bien
d'ailleurs,
sûr,
avec des questions qui peuvent se poser comme n'importe quelle séparation. Mais la séparation se passe globalement bien. Il y a d'ailleurs des enregistrements assez étranges, mais qui démontrent qu'ils ont trouvé un accord. Et que d'ailleurs, c'est plutôt Sylvia Boisgelot qui dirige ce qui va se passer par la suite. C'est elle qui porte la culotte dans la séparation. Et je tiens à rectifier, il n'y a aucune assurance vie. Maître Nicolis s'est peut-être mal souvenu. Il y a simplement une assurance solde restendue qu'ils ont l'un et l'autre par rapport à une maison qu'ils ont à Tubize. Et donc, il y a un remboursement d'un emprunt pour une maison. Mais l'appartement dans lequel on va retrouver le corps de Marc Deléa est l'appartement qui appartient seul et uniquement à Sylvia Boisgelot. C'est son appartement à elle.
C'est son appartement.
dans lequel elle va d'ailleurs laisser Marc de Léa continuer à vivre.
Oui, bien sûr.
Elle lui dira, et c'est prévu, il va continuer à vivre là encore plusieurs mois. Et elle lui dit, tu pourras encore rester là en au mois de juillet jusqu'en décembre, janvier, on trouvera une solution. Donc il n'y a pas une tension comme on peut la rencontrer. Ce n'est pas quelqu'un qui quitte l'autre et l'autre qui est à fleur de peau à cet égard-là. Ce sont deux personnes qui ont des problèmes mineurs concernant la séparation.
Dominique Demoulin, il y a un problème avec l'heure du crime. Effectivement, on ne sait pas vraiment à quelle heure s'est produit le crime, et c'est important puisque les deux étaient dans l'appartement, ils apparaissent sur la vidéosurveillance.
Oui, tout à fait, et c'est un élément capital, passionnant, et on ne sait toujours pas à quelle heure est mort ce pauvre Marc de Léa. Alors les experts vont avoir des avis contradictoires. Finalement, ce qu'on peut en retenir, il y aura trois experts, trois médecins légistes qui vont se positionner sur cette question. Et ce qu'on en retient, c'est qu'il est impossible de déterminer précisément l'heure du crime. Mais sans doute, ce crime a-t-il eu lieu dans la nuit du 6 au 7 juillet 2014, entre 23h19 et 3h06. J'ai repris les heures précisément.
Ce qui veut dire, Dominique, que les protagonistes, le député et sa maîtresse, étaient sur place à ce moment-là.
Voilà, effectivement, ils sont arrivés dans l'appartement ce soir-là. Ils sont restés un moment jusqu'à ce que Marc de Léa rentre. Et on a des vidéos de surveillance. Donc il y a des caméras qui sont placées dans le couloir de cet immeuble où vit Marc de Léa. Ces caméras montrent que Marc de Léa rentre chez lui à 23h19. À ce moment-là, Christian Vaneken et Sylvia Boisgelot sont dans l'appartement. Donc les trois personnes sont ensemble pendant un certain temps, et le couple Vaneken-Boisgelot va quitter cet appartement à 1h16, si ma mémoire est bonne, mais ça je vous avoue que je n'ai pas noté, mais je crois que c'est 1h16. Et puis le téléphone de Marc de Léa va cesser de fonctionner à 3h06 du matin. Donc, ça permet d'établir un créneau entre 23h19, heure à laquelle il rentre, et 3h06, moment où son téléphone ne fonctionne plus. Téléphone, soit dit en passant, qu'on ne retrouvera jamais. Les téléphones posent aussi mal de questions et restent très mystérieux dans cette affaire.
Évidemment, hein. Mais il était bon de revenir sur cette heure parce que c'est très important dans cette histoire de crime. Le député et son assistante parlementaire vont être jugés pour le meurtre de Marc de Léa. Ils comptent bien démontrer leur innocence face à un dossier qu'ils estiment uniquement rempli de vide. Ce lundi 3 juin 2019, 5 ans après le meurtre de Marc de Léa, Christian Vaneken et Sylvia Boisgelot, désormais mari et femme, ils se sont mariés l'année précédente, comparaissent devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Ils maintiennent que tout se passait bien avec la victime. Ils se demandent ce qu'ils font là. Ils regrettent que les vrais coupables soient toujours dans la nature et déplorent les pressions qu'ils subissent depuis le début de l'affaire. Les avocats des accusés tentent de démontrer qu'un intrus aurait pu pénétrer dans l'appartement et donner la mort à de Léa. Ils en veulent pour preuve la moustiquaire endommagée. Celle-ci aurait permis, en la poussant, de rentrer par une fenêtre. Le tribunal rejette cet argument. L'enquête n'a pas permis de montrer que quelqu'un en voulait à la victime au point d'attenter à sa vie. Par contre, un contentieux manifeste opposait les prévenus à la victime, qu'ils traitaient de porc, de monstre et de cocu, répondent les juges. Lors des audiences, les attitudes des prévenus ne jouent pas en leur faveur. Lorsque des témoins à charge sont cités à la barre, ils ne manquent pas de faire des commentaires, indiquant par exemple que telle ou telle personne est une aguicheuse ou encore que telle autre appartient à une secte. L'accusation estime que Sylvia Boisgelot est une menteuse. Contrairement à ce qu'elle affirme, elle aurait continué à entretenir des relations sentimentales avec son ex-mari. Du côté de Christian Vaneken, ses propres enfants nés d'un premier mariage dressent de lui un portrait peu flatteur. Il est présenté comme un homme violent, manipulateur. Jugement rendu le 3 septembre 2019, 23 ans de prison pour chacun des prévenus. Leur arrestation immédiate est demandée, mais celle-ci est finalement refusée par le tribunal. Et on verra qu'il y aura un procès en appel. On va voir si ce procès en appel va changer ou non les choses. Dominique Demoulin, un tout petit point qui me trouble depuis le début, et c'est sûrement une question que vont se poser les auditeurs. Pourquoi on est devant un tribunal correctionnel? Pourquoi on n'est pas devant une cour d'assises?
Ah, là aussi, hein, ça demanderait de longues explications. On peut faire court, parce qu'on a changé la loi, tout simplement, en Belgique, à un certain moment. Le ministre a décidé que même les meurtres pouvaient être jugés par un tribunal correctionnel. Et puis, on est revenu en arrière, voilà. Mmh. Et c'est, à ma connaissance, la seule affaire d'assassinat qui, finalement, sera jugée par un tribunal correctionnel. Aujourd'hui, en Belgique, les assassinats sont à nouveau jugés par un jury d'assises.
Donc, voilà, donc c'est une parenthèse, mais qui est importante pour comprendre un petit peu la procédure en cours. Maître Laurent Kennes, avocat de Christian Van Eyken, je vous pose la question suivante. Vous avez l'impression, y compris à ce procès, que finalement votre client, c'est comme ça que vous le présentez, il est un petit peu observateur de ce qui se passe. Il aurait presque été manipulé, j'ai envie de dire.
Alors, je pense d'abord qu'il était surtout le confident de sa maîtresse, qui lui racontait ses débords du quotidien et qui venait déverser, comme ça arrive souvent, pour une, en tout cas plus souvent entre deux amis, elle vient déverser tous les problèmes qu'elle a, et c'est pour ça qu'elle avait, que Madame Boisgelot a utilisé des termes de la sorte propos de son mari. Pour le reste, effectivement, quand vous avez fait des présentations, j'entends que on dit souvent les prévenus fonctionnent comme ça, disent qu'un tel. En réalité, ce qui se passe, c'est que Madame Boisgelot est quelqu'un qui ne sait pas se taire, elle a beaucoup de charisme, elle parle beaucoup, et donc on a un peu associer les deux prévenus, les deux accusés, à cette forme de réaction et de parler tout le temps. Et quand des gens sont innocents, ce que je pense encore aujourd'hui dans le cadre de ce dossier, ce sont sans doute les personnes les plus mal mises pour pouvoir s'exprimer et se défendre. Et Mme Boisgelot s'est très mal défendue. Quand tout à l'heure vous avez dit, ben vous savez, dès qu'il y avait un témoin, on disait que c'était quelqu'un qui était membre d'une secte ou quoi. En fait, la personne dont vous parlez, elle était membre d'une secte. Je peux vous le dire, je l'affirme. Nous l'avons démontré dans le dossier. Elle a écrit un livre parce qu'elle avait reçu des informations venant d'un personnage galactique. Mmh. Et donc, nous avons simplement dit ça, mais tout le monde dit, regardez, on a toujours quelque chose à dire. Mais parfois, il y a des choses qui sont réelles, qui doivent être dites, mais il n'y avait pas la manière.
Alors, ça passe ou ça passe pas, effectivement. Et là, ça ne va pas passer à ce procès. Maître Georges Nicolis, quelle est l'ambiance qui règne du côté des parties civiles? Vous êtes convaincu déjà de la culpabilité des deux prévenus?
Vous parlez de la première instance ou de la procédure
d'appel ? Première instance.
Écoutez, comme vous l'avez rappelé en tout début d'émission, on aborde ce procès du côté des parties civiles avec un handicap qui est celui de l'absence de preuves directes. Et il est évident que les trois confrères que j'ai en face de moi vont tout miser là-dessus pour expliquer qu'il y a probablement d'autres pistes que celles qui concernent leurs clients.
Ouais, et puis il n'y a pas de preuves.
C'est ça, il n'y a pas de preuves directes.
Bon, c'est ça,
vous
mais c'est important.
Aussi, vous parliez du faisceau d'indices, c'est sur base de cette technique procédurale et sur base de cette technique de preuve que le tribunal de première instance va décider de la culpabilité des prévenus.
Dominique Demoulin, juste un mot avant de terminer, de clore ce chapitre. L'ambiance, elle est comment à ce premier procès? C'est assez tendu, c'est assez lourd. Encore une fois, c'est un procès, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de témoins.
J'ai vu plusieurs témoins qui avaient peur de s'exprimer, qui disaient cette peur avant, après leur audition. Ils sortent cassés aussi de l'audition. Et un exemple, lors de ce premier procès, moi j'avais obtenu des photos de ces caméras de surveillance qui montrent les allées et venues dans l'immeuble. Donc on voit rentrer Marc Deléa, on voit sortir le couple Van Eyken, Sylvia Boisgelot. C'est mon travail de journaliste, alors que j'ai utilisé dans un reportage, bien évidemment. Eh bien, les avocats de la défense en ont fait un incident d'audience, et cet incident d'audience est même repris dans l'arrêt du procès en appel, en disant que finalement, ça n'a rien changé. Oui. Pareil pour l'interview, vous avez parlé de l'interview de la pédicure, c'est un témoignage qui est tout de même essentiel. C'est quelqu'un qui est venu avec la peur au ventre, véritablement, à ce procès. Cette dame, je l'ai interviewée après son audition, bien évidemment, à visage caché. Et là encore, alors qu'encore une fois, c'est un travail normal.
Et on va voir ce que va donner, évidemment, ce deuxième procès qui s'annonce. Le député et sa désormais épouse font appel de ce jugement. Nous avons encore beaucoup d'arguments à développer devant la cour. L'affaire n'est pas terminée, indique la défense. 4 janvier 2021, Christian Van Eyken et Sylvia Boisgelot arrivent main dans la main devant la cour d'appel de Bruxelles. Ils savent que si leur peine est confirmée, ils iront probablement en prison. Le désormais ancien député répète qu'il n'avait aucun grief contre la victime et vice-versa. Marc Delea n'avait pas d'attitude désobligeante à mon égard, il n'y avait pas d'animosité. Sylvia Boisgelot reconnaît des accrochages avec son ex-mari, dispute verbale, mais pas au point de vouloir le tuer.
Haut et fort, je peux le crier, je n'ai rien à voir dans le décès du papa de ma fille.
En même temps, il semble qu'il n'y ait pas d'autre piste.
Écoutez, je laisse le reste pour le tribunal, je m'excuse.
Mais alors, si les deux prévenus, présents dans l'appartement le soir du crime, n'ont pas tué Marc Delea, qui a tenu le pistolet? Un cambrioleur qui se serait glissé par l'entrebâillement de la moustiquaire? Techniquement impossible, répondent les experts. Qui plus est, si les policiers ont trouvé des tiroirs ouverts, aucun objet de valeur n'a disparu. Autre fait troublant, ni Van Eyken ni Boisgelot n'avaient avec eux leur portable la nuit où Delea a été tué. À la barre, Manon Delea, 21 ans, fille d'une première union de la victime, témoigne pour la première fois. Elle accable son ex-belle-mère. Elle exerçait des violences morales et physiques. Elle souhaitait que je l'appelle maman. Si je ne le faisais pas, je devais me laver les yeux avec du savon. Une autre témoin qui connaissait Marc Delea raconte que Sylvia Boisgelot criait tout le temps. Quand j'ai appris que Marc avait été assassiné, j'ai tout de suite pensé, c'est elle. La culpabilité de ce couple suinte dans tous les coins du dossier. S'écrit la partie civile. 27 ans de prison, 4 de plus qu'en première instance. Le parlementaire et sa femme prennent le chemin de la prison. Le frère de la victime se dit soulagé.
Je suis soulagé que ça soit la fin, parce que ça fait presque 7 ans. Et je sens le besoin de tourner la page.
Et voilà donc un procès qui a l'air beaucoup plus nerveux, beaucoup plus riche que le premier. C'est le cas, Dominique Demoulin, journaliste à RTL TVI.
C'est un procès qui sera tendu, comme le premier, effectivement. Je crois que tout le monde est vraiment sur la défensive, là. Vous avez parlé du témoignage de Manon, la première fille de Marc Delea. Il y aura aussi les fils de Christian Van Eyken qui vont venir. On va véritablement... non pas laver, mais déballer le linceul familial, et ce sera pas joli, ce seront vraiment des moments extrêmement violents, ces fils du premier mariage de Christian Van Eyken qui n'auront pas un regard pour leur père et qui vont en faire un portrait absolument épouvantable. Donc il y aura pas mal de moments comme ceux-là durant ce procès, des moments qui font un peu froid dans le dos et qui ne dressent pas un portrait effectivement très sympathique des accusés.
Oui, c'est ça, c'est depuis le début les prévenus, les accusés, on n'a pas l'air qu'ils soient très sympathique ni très souriant. Maître Georges Nicolis, avocat de la partie civile et donc de la famille de Marc Delea, on a entendu le frère de Marc Delea qui s'exprimait. Effectivement, c'est un soulagement du côté des parties civiles dès lors que le jugement est tombé.
Alors, je voudrais tout d'abord rectifier, il ne s'agissait pas du frère mais du père.
Pardon, le père.
Monsieur Giuseppe Delea. Que vous avez entendu donc dans le
autant
cadre
pour moi, j'avais frère dans mon texte.
C'est pas bien grave, mais pour les auditeurs, je pense que c'est quand même important. Alors écoutez, encore une fois, au tout début, ça n'était pas chose aisée, puisque on l'a dit, on l'a répété, on n'avait pas de preuves directes dans ce dossier, mais l'analyse qui a été faite à l'issue des débats par le tribunal de première instance a permis de convaincre, en tout cas, le camp de la partie civile de ce que la culpabilité était tout à fait établi. Donc ils vont aborder ce procès d'appel effectivement avec une certaine confiance, mais en étant tout de même sur la réserve, sachant qu'il s'agissait évidemment d'un second procès qui allait revoir la totalité de l'affaire et à l'occasion duquel tout pouvait intervenir.
Maître Laurent Kenness, qu'est-ce qui emporte selon vous êtes l'avocat de Christian Van Eyken, qu'est-ce qui emporte selon vous la conviction des juges dans cette affaire?
Sincèrement, je pense que c'est ce qu'on appelle un procès d'ambiance. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est en 25 ans de carrière la plus grosse erreur judiciaire que moi j'ai pu rencontrer. C'est la seule dans laquelle je suis intervenu, en tout cas du côté de la défense. Et c'est l'impression qu'on donne. Vous avez dit tout à l'heure, après avoir entendu quelque chose, ces gens n'ont pas l'air très sympathiques ni très souriants. On est
était venu aller chercher tout ce qui était, tout ce qu'on pouvait retrouver. On est allé rechercher des faits qui dataient de 25 ans en arrière pour essayer de dire que Christian Van Eyken avait été violent à l'égard de ses enfants. À l'époque, il y a 25 ans, il y a eu une procédure qui a été ouverte. Il y a eu un, ça a été, on a classé le dossier sans suite. Il y a eu un non-lieu. Il n'a même pas été poursuivi tellement ce n'était pas crédible. Mais 25 ans plus tard, ça devient vrai. C'est une certitude. La pédicure, l'esthéticienne dont on parlait, qui est allée faire à cette déclaration à la police et qui est allée dire que Sylvia Boisgelot lui avait dit deux ans avant, qu'en fait elle cherchait quelqu'un à tuer. Vous savez ce qu'elle a fait le lendemain d'être allée à la police ?
Allez-y.
Alors que deux ans après, elle est allée soigner Sylvia Boisgelot. Cette femme dont on dit qu'elle est venue témoigner la peur au ventre, c'est pas le journaliste que je critique. Ce n'est certainement pas elle qui fait son métier qui interroge cette personne. C'est la crédibilité du témoin qui dit avoir peur de quelqu'un chez qui elle est allée encore le lendemain après avoir été dit ça, dire ça à la police. Elle est allée la soigner. Elle a continué à travailler chez elle pendant 6 mois. Elles en ont même discuté. Sylvia Boisgelot lui dit, mais pourquoi est-ce que tu as dit ça? Je ne m'en souviens pas. Et elle est repartie libre, sans aucun problème, sans avoir fait l'objet de la moindre menace. Mais vous voyez ce qu'on en fait encore aujourd'hui. Si vous posez la question de savoir si ce procès est tendu, je suis prêt à reprendre la parole, à aller plaider. Ce dossier est épouvantable et c'est un procès d'impression. Il n'y a jamais eu de preuves. C'est pas seulement qu'il n'y a pas de preuves directes, c'était... On n'a pas de preuves, on a des impressions. C'est ça qui m'a malheureusement convaincu.
Un procès d'impression et d'ambiance, c'est ce que vous dites. Condamnation définitive, même si le couple ne va rester que quelques semaines en détention. La Cour de cassation belge a partiellement cassé le jugement. Un tribunal va devoir réévaluer la peine infligée. Le 29 mars 2022, le tribunal de Mons se penchera sur la peine infligée au couple Van Eyken, prononcée dans des conditions contestables selon la Cour de cassation belge. Troisième procès technique qui ne remet pas en cause la condamnation mais pourrait conditionner peut-être un retour en prison des deux intéressés. Ces derniers, malgré une peine de 27 ans de prison, avaient été libérés après 4 et 5 mois de détention, condamnation définitive, mais qui ne parvient pas à chasser les doutes qui entourent toujours la mort violente de Marc de Léa, une arme du crime introuvable et un mobile qui reste dans le flou. Dans ses derniers mots, avant sa condamnation, Sylvia Boisgelot s'était exclamée « Je n'ai pas tué le père de ma fille ». À ses côtés, Christian Van Eyken avait enchaîné « Je n'ai jamais tué personne, je n'ai jamais imaginé qu'on soit un jour condamné, tout ça m'a détruit ». Christian Van Eyken qui va donc porter cette condamnation. Maître Laurent Kennes, vous êtes l'avocat de Christian Van Eyken. Est-ce qu'il risque, à l'issue de cette nouvelle audience, qui sera très technique dans quelques mois, de retourner en prison, votre client, ou bien est-ce qu'il est à l'abri de cette échéance ?
Non. Le drame dans le dossier, c'est que dans ce dossier, c'est qu'ils ont été libérés après l'arrêt de la Cour de cassation, qui a constaté que l'arrêt sur la peine qui a été prononcé par la Cour d'appel de Bruxelles n'était pas légal. Ils ont cassé l'arrêt et donc ils se sont retrouvés libres. Et là, ils ne vont être jugés que sur la peine, pas sur la culpabilité. Et donc, ils vont être nécessairement, à ce stade-ci, condamnés à une peine d'emprisonnement dont on ne connaît pas, ce sera l'objet du débat. Et donc, une fois que la peine sera prononcée, il recevra un billet d'écrou chez lui, il devra rentrer en prison. Et M. Van Eyken, je le rappelle, 67 ans, il n'a pas fait de prison parce qu'il y a eu un couac dès le départ. Le mandat d'arrêt n'a pas été signé, donc il n'a fait qu'un jour de prison. Et donc, s'il est condamné à 27 ans, à 23 ans ou à 15 ans, eh bien, il est parti pour une période très longue en prison.
Oui,
il risque fort d'y mourir.
Oui, effectivement, il pourrait finir ses jours en prison. Il a effectivement 66 ans. Maître Georges Nicolis, est-ce que quel est votre sentiment dans cette affaire ? J'ai envie de dire, vous avez ce couple de prévenus qui sont maintenant définitivement condamnés, donc ils sont considérés comme coupables par la justice belge. Quel est votre sentiment ? Est-ce que vous pensez que c'est un couple qui tous les deux se tenaient vraiment par la main, ou bien l'un a influencé l'autre ?
Ma position dans ce dossier est que Madame Boisgelot a exercé une très forte influence sur Monsieur Van Eyken, sur le député Van Eyken, et que c'est elle qui a, j'ai envie de dire, initié toute
cette
affaire.
Conduit le bal, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Est-ce qu'aujourd'hui on a le sentiment, je dis même pas une certitude, mais le sentiment d'avoir un mobile dans cette histoire, Maître Nicolis ?
Tout à fait. Je vous le répète encore. Il y a au moins trois mobiles, à mon sens, qu'on peut retenir dans cette affaire. Deux d'ordre familiale, en commençant par la petite Lola, donc l'enfant de Marc et de Sylvia Boisselot. Le second mobile d'ordre familial est apparu en cours de procédure, puisque vous aurez appris que Madame Boisselot et Monsieur Van Eyken se sont mariés en toute tranquillité, et donc ont pu vivre leur relation au vu de tous, sans être gênés par quelques questions que ce soit. Et le troisième mobile, nous en avons parlé tout à l'heure, il s'agit du mobile financier, qui fait que au décès de Marc Deléa, Madame Boisselot a perçu une très importante somme d'argent qu'elle a soit affectée au remboursement de son crédit hypothécaire, soit encaissée à titre personnel, ce qui constitue un troisième mobile.
Maître Kenes, très brièvement, juste un mot, dans quel état d'esprit est votre client Christian Van Eyken ?
Catastrophé.
Abattu,
pas résigné, oui, abattu. Je pense que c'est vraiment ça. Donc, il faut imaginer les discussions qu'un avocat
bien sûr
peut avoir avec son client. Je ne vais pas révéler ça, mais je me souviens du moment où il est entré en prison, parce qu'à un moment donné, il est entré en prison après l'arrêt prononcé par la cour d'appel. Donc, il a fait 6 mois de détente de prison. Et pendant cette période de 6 mois, la discussion porte sur l'intérêt de vivre encore. Si c'est pour rester en prison pendant aussi longtemps. Donc ces questions-là se posent réellement, et surtout avec une affirmation de quelqu'un qui me dit être innocent, et je n'ai aucune certitude de l'inverse, qui serait beaucoup plus confortable pour moi.
Il voit son avenir, je suppose, sous un air, sous des cieux très sombres.
Oui, et tout à la fois, ils ont démontré qu'ils étaient présents à chaque fois.
Bien sûr.
Et ils se présentent encore maintenant. Ils vont être présents le 29 mars. Ils seront présents encore après. Ils rentreront en prison. Il n'a aucune possibilité d'aller vivre ailleurs, en fait.
Il sera là, évidemment, à ce procès à Mons. Dominique Demoulin, journaliste RTL TVI, je vais terminer cette émission avec vous. On a vraiment, on a dit, il y a des mobiles possibles, imaginables. Il y a 2 condamnations qui sont définitives. Et pourtant, il y a un goût d'inachevé incroyable dans cette histoire.
Tout à fait. Et j'ai le sentiment que cette histoire restera toujours mystérieuse. Alors, on l'a dit, il nie avec énergie, avec constance. Il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de preuve. Je voulais revenir quand même très brièvement.
Très brièvement, Dominique, on arrive au bout.
Qui a dit qu'on les avait jugés sur leur mauvaise mine, en quelque sorte. Hein. Il faut bien remarquer ici qu'il y a quand même un concours de circonstances tellement extraordinaire que ça confine au miracle. Hein. Le soir du crime, les chiens ne sont pas là, la fille du couple n'est pas là, le concierge est en vacances. Ni Van Eyken ni Boisselot n'a son téléphone, il reste 2 heures. Il y a tout de même un faisceau de présomption qui est relativement lourd, et puis il n'y a pas d'autre piste. Maintenant, je pense que le mystère de la mort de Marc Deléa risque de rester effectivement un mystère peut-être pour toujours.
Merci beaucoup Dominique Demoulin, maître Georges Nicolis et maître Laurent Kenes d'avoir été les invités de l'heure du crime aujourd'hui. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.